Radioscopie.
Romain Gary.
Jacques Chancel. Romain Gary, lorsqu'on a lu « La nuit sera calme », qui est un de vos romans, on se demande ce que l'on peut apprendre encore de vous, car dans ce livre, vous êtes mis à nu, comme pour vous faire pardonner un destin tumultueux, et il faut l'avouer, vous avez eu des aventures qui pourraient aller pour toute une suite d'existences. Alors je me pose cette question, Romain Gary, votre fringale de vie est-elle encore intacte à plus de 60 ans?
Elle est complètement intacte, mais elle me pose de singuliers problèmes, parce que je n'ai plus l'estomac qui correspond à cet appétit. Je passe pas mal de temps, c'est peut-être le début de ce qu'on appelle la maturité, que j'appelle, invoque en vain, à réfléchir d'où me vient cette espèce de fringale intérieure envers la vie, le monde et envers toutes les manifestations de l'existence. Je suis sans réponse.
Mais à partir de quel âge vous êtes-vous posé toutes ces questions? Après 50 ans?
J'ai commencé à me les poser il y a 3 ou 4 ans, parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, j'étais tellement occupé à vivre et à écrire que j'avais très peu de temps à consacrer à moi-même. Ça vous paraît bizarre, peut-être, comme formule, mais j'étais à ce point tourné vers l'extérieur, vers les manifestations extérieures, littéraires, activités professionnelles diverses, aventures et voyages, reportages, cinéma, que je n'avais plus le temps de m'occuper de mon subconscient ou de, comme disent les Américains, qu'est-ce qui fait courir Samy. C'est seulement depuis 3 ou 4 ans que j'essaye de me dépatouiller là-dedans pour essayer simplement de réduire cette espèce d'appétit qui finit par être très fatigant après la soixantaine. Je viens d'avoir 61 ans.
Vous n'avez pas l'impression, Romain Gary, de vous être un peu trop dispersé? Vous êtes écrivain et on le sait, vous êtes cinéaste et on le sait aussi, mais vous avez été consul, vous avez été conseiller d'un ministre de l'Information, vous avez sans doute été tenté par la politique.
Écoutez, j'ai été avant tout, je passe sur les métiers que j'ai faits dans la préhistoire, dans ma préhistoire, pour survivre, parce que je suis d'un milieu extrêmement pauvre. Mais j'ai été 9 ans aviateur. Je me suis engagé dans l'aviation à l'âge de 23 ans. Je suis resté aviateur 9 ans, aviateur de carrière, instructeur à l'école de tir aérien à l'école de l'air de Salon. J'ai ensuite rejoint De Gaulle, les campagnes d'Angleterre, la bataille d'Angleterre, Koufras d'Afrique, l'Abyssinie, la Libye, la Syrie et tout le tralala jusqu'au débarquement en Normandie. Après quoi, 17 ans diplomate, carrière politique de conseiller d'ambassade et carrière consulaire que j'ai terminée comme consul général à Los Angeles en 1961. Après, j'ai été en effet conseiller d'un ministre, j'ai fait beaucoup de journalisme et j'ai fait, comme vous dites, du cinéma comme metteur en scène. Mais il y a plus grave que ça dans cette dispersion. Si je m'examine au point de vue culturel, je vois trois choses. Je suis né en Russie. J'ai emmagasiné jusqu'à l'âge de 7-8 ans la culture russe et la langue russe. Ensuite, ma mère a émigré. Alors, en France, elle s'est arrêtée quelques années en Pologne. Et pendant 5 ans, j'ai emmagasiné la langue et la culture polonaise. Après quoi, à l'âge de 12 ans, je débarque à Nice, au lycée de Nice, et j'emmagasine la culture française. Alors, je pense souvent, Jacques Chancel, à cette histoire que vous connaissez peut-être, du caméléon. Vous savez que le caméléon prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve pour se protéger. Eh bien, on met le caméléon sur un tapis rouge, il devient rouge. On le met sur un tapis vert, il devient vert. On le met sur un tapis bleu, il devient bleu. Et on le met sur un plaid écossais et le caméléon est devenu fou. Eh bien, finalement, je me demande comment je ne suis pas devenu fou. Je crois que je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas été schizophréné par cette existence.
Vous posez la question quand même.
Oui, je crois que je me réponds de la façon suivante. J'ai été, en quelque sorte, sauvé par la compensation de la création littéraire, puisque j'ai à mon actif 25 romans.
Bon, il y a eu la Russie, il y a eu la Pologne, il y a la France. Tant de cultures font-elles une culture?
Eh bien voilà, c'est une chose à laquelle seule mon œuvre peut répondre. Je ne crois pas qu'elle fasse une culture, je ne crois pas non plus qu'elle fasse une personnalité unique. Forcément, il y a des côtés qui s'en vont de toutes parts, mais, et je dois dire que je m'en targue, et c'est peut-être manquer de modestie, je crois que cet apport slave, cet apport de l'Europe de l'Est, constitue une certaine note originale dans la littérature française et qu'avec éducation européenne, par exemple, j'ai donné cet apport slave et que l'on retrouve peut-être l'apport du romantisme polonais dans Les Racines du Ciel, le personnage de Morel qui est assez romantique polonais d'inspiration, comme le trouvent en tout cas les critiques polonais. Je dis ça parce que je reviens de Pologne où j'ai eu un accueil très touchant.
La vie vous a tout de même bien gâté parce qu'il y a Les Racines du Ciel, ce livre qui a obtenu le prix Goncourt, il y a vos films, il y a la vie elle-même, vous avez été le mari de Jean Seberg, et vous venez de dire à l'instant, j'ai 61 ans, et ayant la fringale de vie que vous avez, je vous soupçonne de rêver encore que vous serez amoureux.
Ça, bien sûr, il est permis de rêver, et surtout à 61 ans, il faut se dépêcher de rêver, je dirais même. Mais voyez-vous, la vie m'a comblé, dites-vous. Alors là, nous avons affaire à quelque chose d'assez désagréable et d'assez affligeant pour moi. Et je vous sais gré, d'ailleurs, de me permettre d'en parler. Il existe, avec cette image de l'homme comblé à laquelle vous vous référez, c'est une image de l'homme extérieur, Romain Gary, qui a été fabriqué entièrement par des gens qui ne me connaissent pas. Il y a, Dieu sait pourquoi, je m'excuse d'employer ce grand mot, Jacques Chancel, mais c'est la vérité, vous le savez bien, il y a une légende Romain Gary. Et je ne sais ce que j'ai fait pour en avoir une pareille. On dîne dans le monde sur le dos de Romain Gary que l'on connaît. Or, si vous regardez mon agenda, je sors le soir 9 fois par an. Voyez donc que je n'ai presque pas d'existence extérieure mondaine. Néanmoins, permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé il y a 4 jours. Une de mes amies, qui organise des concerts et des promenades musicales dans Paris, est invitée à dîner chez un collectionneur. De nombreuses personnes, des gens, des industriels, qui ne me connaissent ni d'Ève, ni d'Adam, et qui n'ont même pas lu mes livres, du moins la personne à laquelle je vais me référer. Et voilà ce qu'il déclare. Et j'ai un témoignage que, si vous le mettez en doute, je vous donnerai le nom de la personne intéressée. Voilà ce que ce monsieur déclare. Il dit que Romain Gary vit de la fortune de sa première femme. Ensuite, il ajoute, c'est un drogué, c'est un arriviste, 3 fois marié. Bon, alors si vous entendez une chose pareille qui vous arrive aux oreilles, ce n'est pas la première fois. Par exemple, une journaliste de la radio, il y a quelques années, à qui on demandait qui est Romain Gary, a répondu, aventurier, diplomate, escroc mondain.
Ça vous fait mal ?
Non, pas du tout, mais je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Ça ne me fait pas mal.
Mais les gens disent n'importe quoi.
Les gens disent n'importe quoi. Mais pourquoi des hommes, et c'est ça que finalement va rejoindre le thème de mon roman, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, où il est question de virilité, c'est pourquoi des hommes se fabriquent des fantasmes sur mon dos et contre moi, en proie à quelle étrange infection virile. C'est ça qui m'intéresse vivement. Et quand vous dites que j'ai été comblé par la vie, c'est pourquoi ? Parce que vous vous référez à des choses qui se voient de l'extérieur.
Oui, des choses extérieures.
On voit le prix Goncourt, on voit le prix des critiques pour l'éducation européenne, on voit la vente des livres, les forts tirages chez Gallimard ou les succès en Amérique.
On voit vos titres.
On voit la Croix de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc. Mais prenons la Croix de la Libération. J'ai été comblé en recevant la Croix de la Libération. Ça a été, comme dirait M. Prudhomme, le plus beau jour de ma vie. Mais néanmoins, j'ai saigné pour l'avoir. J'ai failli être tué 10 fois, 100 fois même peut-être. Ce n'est pas être comblé, c'est prendre, en dépit de soi d'ailleurs, sous une force extérieure, des responsabilités envers son existence qu'on ne peut pas ne pas prendre, que je ne pouvais pas ne pas prendre. C'est un courant intérieur qui me pousse et qui m'oblige à écrire des livres et, quand j'étais jeune, à me battre. Et finalement, dans tout ce portrait un peu presque schizophrène, que l'on peut en effet faire de ces multiples activités, il y en a une déterminante. Et pour ceux qui veulent se donner la peine de comprendre mon œuvre, ou moi-même, dans la mesure où ça peut les intéresser, il y a une composante déterminante qui a été la France libre. J'ai dit exprès la France libre et non pas la France, parce qu'il y a eu deux choses distinctes dans ma vie. Il y a eu la France, que j'ai apprise au lycée, et il y a eu la France libre, qui est mon expérience de camaraderie à l'escadrille Lorraine pendant 5 ans, Et sur le 250, que nous étions en 1940, il y a eu à la fin de la guerre 5 survivants, dont 2 vivent encore. Et à quel point je me suis identifié avec eux, c'est que les avions abattus pendant la guerre, bon, on y pensait pas sur le coup, et maintenant, la soixantaine arrivée, je vois ces équipages revenir. Ils reviennent, ces fantômes. Et j'ai pris mon premier...
Ils reviennent la nuit ?
La nuit. Je me suis mis à rêver de ces avions disparus qui reviennent avec le visage de ces camarades que je vois. Et je crois, je n'ai jamais senti ce qu'on appelle prendre un coup de vieux. Eh bien, la première fois, ça m'est arrivé il y a un an, lorsqu'un de mes camarades pilotes de l'escadrille Lorraine volait encore à Air France au pilote, comme pilote de Boeing. Et quand il s'est arrêté de voler, lui, c'est moi qui ai pris un coup de vieux.
Romain Gary, vous racontez votre vie, mais à cette vie, vous pouvez lui donner un sens.
Vous savez, Jacques Chancel, dans quelle mesure peut-on donner un sens à une vie d'homme en général ? Je crois que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond. Ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux par son exclusion de tout le reste. Monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman et la création littéraire, qui me rend tous les engagements, tous les autres engagements, extrêmement difficiles et qui me donne un air absent.
C'est la maîtresse la plus fidèle.
C'est la plus absorbante et la plus dévorante. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité, je ne dis pas des femmes, je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde.
Et toute votre œuvre, d'ailleurs, est marquée par ce que vous venez de dire. C'est presque une allégorie.
Je crois. Je pense que ma mère, que j'ai racontée dans mon autobiographie, La promesse de l'aube, a joué probablement un rôle déterminant dans cet amour de la féminité. Mais peut-être aussi, si nous regardons autour de nous, il est évident que l'homme est en proie, que notre civilisation est en proie à des spasmes virils, profondément menaçant et qui vraiment nous menace d'écroulement.
D'ailleurs, pour vous, la virilité, en fait, ça n'est pas la virilité. Vous situez ce problème au stade de la puissance et de l'impuissance. Et c'est la puissance et l'impuissance du monde.
Je crois que c'est un des grands problèmes de ce temps, cet abus de la virilité, cette intoxication virile, cette infection virile qui n'a plus que très peu de rapport authentique avec la virilité. Je crois que l'Occident, l'Amérique en particulier, toute la littérature américaine, Jack London, Hemingway, aujourd'hui Norman Mailer, si elle est tellement obsédée par la virilité, c'est que c'est un signe de dévirilisation profonde, d'angoisse qui se manifeste à l'extérieur par le machismo, comme on dit en espagnol, et par des fanfaronnades de virilité et de recherche de substituts virils, dont finalement la bombe nucléaire n'est qu'un exemple, de prothèse.
Tout à l'heure, Romain Gary, nous parlions de ce destin qui est le vôtre et qui est quand même très tumultueux. Et on peut se demander si un jour un homme arrive à se connaître.
Je crois que oui, mais finalement, je crois que toute connaissance un peu profonde de soi-même est un peu canaille. Je crois que c'est Malraux qui a dit « ce petit tas de secrets misérables ne m'intéresse pas », en parlant de son subconscient et de lui-même. Je crois que si la psychanalyse permet souvent de révéler les tendances secrètes et profondes de l'individu, il y a aussi, pour faire vraiment connaissance avec soi-même, une dose d'humilité dont je crois en ce moment seulement être capable, parce que je ne puis dire que jusqu'à l'âge de 50 ans, l'humilité a été ma caractéristique dominante.
Nous parlions tout à l'heure de cette légende qui s'est créée autour de vous, mais elle s'est peut-être créée à cause de votre physique, parce qu'il y a ce masque cuivré, il y a ce collier de barbe grise, il y a ces yeux bleus, il y a une certaine allure. Je crois que vous êtes victime de vous-même.
Je ne suis pas victime de moi-même, je suis victime de ma gueule. J'ai une tête qui, à mon avis, ne correspond vraiment pas à ce que je suis à l'intérieur. Et il y a eu à cela plusieurs raisons. D'abord, le mélange des sangs, des ascendants tartares, qui sont expliqués autrement dans le contexte occidental. Lorsque vous voyez, mettons, en Orient, en Russie, un type un peu tartare, bon, c'est un type un peu tartare. Mais ici, on l'interprète en termes de caractéristiques morales et psychologiques françaises, occidentales. Dureté, cruauté, sauvagerie, indifférence. En plus de ça, la suite de blessures de guerre, j'ai une paralysie faciale qui me rend le sourire extrêmement difficile, je n'ai pas de nerfs du côté gauche, Et finalement, il y a, comme vous dites, ce tétain, qui est également probablement d'origine de l'Europe de l'Est, un peu cuivré. Et j'ai, autrement dit, une tête que l'on juge sur son apparence extérieure. Et on ne tient naturellement compte dans la vie que de l'étalage.
Êtes-vous un, ou plutôt un être multiple ? D'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Je vais vous dire, je passe mon temps à essayer de rassembler mes cheveux et de les ramener vers moi, qui s'en vont de tous les côtés, comme vous dites. Je ne suis pas un être simple, naturellement, ni unique, puisque j'ai créé des centaines et des centaines de personnages.
Vous êtes même composé une tête, peut-être.
Dans mon subconscient, très probablement, mais je n'en ai pas conscience. Je crois d'ailleurs que consciemment, on ne peut pas se composer une tête. Je crois qu'il faut qu'il y ait des facteurs intérieurs très profonds qui jouent du subconscient, et cela est possible. Mais et si je n'étais pas multiple, je n'aurais pas cette espèce de journée de 8 heures où je passe mon temps à créer des personnages et à vivre la vie des autres. J'ai une telle appétit de vie que ma vie ne me suffit absolument pas. Je vis par l'intermédiaire des personnages de mes remords, des expériences multiples et incessantes.
Vous pouvez faire votre choix dans quatre situations, celle de l'homme, celle de l'écrivain, celle du diplomate et celle de l'aventurier.
Et si je devais en choisir un, je crois que je choisirais quand même avant tout l'écrivain. Je crois que c'est une passion qui me tient au cœur depuis l'âge de 12 ans. J'ai pour l'écriture, pour le mot dit, pour l'écrit, pour le personnage qui vit sur les pages, et un attachement profond qui est peut-être une fuite devant une réalité quelconque, intérieure ou autre. Mais je crois que l'écrivain, avant tout, est pour moi la chose la plus précieuse, en moi-même en tout cas.
Accompagné comme vous l'avez été dans votre vie, vous êtes arrivé maintenant à une forme de désert qui s'appelle la solitude.
Oui, je vis avec...
Pas l'isolement, hein.
Oui,
la solitude.
Oui, c'est très bien. J'ai dit dans mon autobiographie, « La nuit sera calme », que je vis avec Miss Solitude, et que Miss Solitude 44 a été d'une grande, une beauté, comme on dit, et celle de 1975 s'annonce encore plus parfaite. Mais je ne peux pas, vous savez, il faut quand même choisir dans la vie. Et il est absolument impossible de se donner totalement à ses amitiés ou à un grand amour si toute votre obsession, tout votre psychisme est plongé dans ce que vous écrivez. Bon, je ne veux pas dire que ça en vaut la peine. Peut-être que mon œuvre ne vaut absolument pas la peine d'avoir sacrifié tant de phénomènes amicaux, tant de liaisons possibles avec des amis ou avec des femmes ou un grand amour que j'ai.
Vous avez tout sacrifié à la littérature.
Je crois que finalement, je n'ai pas fait délibérément. Je crois que mes compagnons de route, épouses, amis, se sont lassés à un certain moment de voir que c'est un homme qui, pendant qu'il est là, il est absent. Alors, par exemple, on entend souvent que lorsque je suis avec quelqu'un, ou dans un restaurant, ou dans la rue, eh bien, j'ai l'air de ne pas être là, que c'est de l'indifférence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'obsession du romancier qui ne peut pas se débarrasser de son œuvre dans son fort intérieur. Que voulez-vous que j'y fasse ?
Je vous ai vu un jour dans un restaurant, vous étiez seul, mais vous étiez vraiment seul, c'est-à-dire vous étiez avec vous-même.
Eh bien, écoutez,
on n'osait même pas aller vous parler.
Écoutez, ce qui vient de m'arriver dans un restaurant de la rue Gauche, j'étais assis dans un restaurant et je pensais. Et brusquement, je vois un monsieur qui se dresse et qui s'approche de moi, qui dit « Monsieur, vous voulez une photographie ?» Alors j'ai dit « Comment qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Mais vous ne cessez de regarder ma femme. » Ce couple était assis en face de moi et je regardais à travers la femme. Je ne l'avais jamais vue. Je pensais à une pièce de théâtre que j'étais en train d'écrire. Et je ne pensais absolument à cette personne. Voilà.
Vous inventez votre monde.
C'est plutôt lui qui m'invente et qui me conditionne. Je suis presque tout le temps en train de penser à ce que je vais écrire ou à ce que j'écris. Mais presque tout le temps, je crois que, vous savez, finalement, c'est de l'ordre de l'obsession maniaque. Je le reconnais bien, mais je n'y peux rien. Je suis comme ça.
Pour qui vivez-vous ? Pour vous ? Pour votre fils ? Ou de temps en temps pour les autres ?
Depuis que j'ai mon fils, qui a 12 ans, c'est essentiellement pour lui. Et c'est absolument évident. Et je dirais même, je crois, que la nature nous pousse à avoir des enfants, non pas tellement pour nous prolonger, comme disent souvent les psychologues, mais pour échapper à nous-mêmes. J'ai l'impression d'échapper à moi-même et de cette obsession même avec mon art littéraire lorsque je vois mon fils devant moi.
Vous rêvez tellement que vous devez faire des rêves. Ou votre enfant à sa place.
Oui, mais vous savez, je rêve tellement d'une vie romanesque, je rêve tellement dans la vie que j'ai des nuits de 9 heures de sommeil presque, je rêve presque jamais la nuit. Mes rêves se passent éveillés. Et c'est seulement depuis quelque temps, que je vous dis, depuis 2 ans, que je suis hanté par ce rêve des avions qui reviennent avec des camarades morts.
Mais plutôt que de penser à ses camarades morts, vous ne pourriez pas penser à ce fils qui est vivant et peut-être construire un peu sa vie ?
Je m'en occupe totalement. C'est une de mes obsessions profondes et premières.
Lorsque vous avez quitté Ginzburg, ça a été un déchirement ou ça a été une décision logique ?
Ça a été les deux. Ça a été un déchirement pour tous les deux, je crois. Ça a été certainement un déchirement pour moi. Mais nous avons eu, je l'ai dit souvent, elle l'a dit de son côté, nous avons eu 9 ans de bonheur. Et vous savez, un homme marié avec une vedette de cinéma, un homme par-dessus le marché de 25 ans, plus, 24 ans plus âgé qu'elle, 9 ans de bonheur, c'était parfait. Et nous avons constaté tous les deux que ça tendait à se déglinguer, qu'il y avait des compromis, des facilités. Et nous avons divorcé. Ça a été néanmoins pour moi un grand déchirement.
C'est toujours pour vous l'écueil, cette différence qu'il peut y avoir entre un homme et une femme sur le plan de l'âge?
Je ne crois pas, voyez-vous, c'est une question dont on pourrait parler pendant des heures. La grande différence sur le plan de l'âge entre un homme et une femme n'est la plupart du temps pas de l'ordre sexuel, sauf peut-être des cas que je ne connais pas spécifiquement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir de là où le drame est profond, ça je mets sérieusement en garde les personnes jeunes qui veulent épouser des hommes plus âgés, c'est qu'il y a une certaine lassitude devant ce qu'on connaît déjà et qu'on a beaucoup de peine à revivre une deuxième. On s'est déjà tapé le monde. Vous avez 50 ans. Vous vivez avec une jeune femme de 22 ans, 23 ans. Vous êtes déjà tapé le monde plusieurs fois, de tous les côtés. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup. Et en ce moment, vous trouvez en compagnie d'un être jeune qui commence et qui a envie de commencer ce rapport avec le monde. Et là, c'est extrêmement difficile, parce que vous voyez cette jeune femme, ou ce jeune homme, c'est surtout en général une jeune femme, puisque c'est plutôt les hommes plus âgés qui épousent les femmes plus jeunes, vous la voyez faire les mêmes erreurs, vouloir faire les mêmes erreurs que vous avez faites. Elle n'écoutera pas vos conseils. Et plus vous lui donnerez de conseils, plus vous prendrez l'air de papassage qui est déjà très mauvais pour les rapports. Plus vous la mettez en garde, et plus vous commencez à transformer vos rapports homme-femme en rapport fille-père. Et tout cela fait qu'au bout d'un certain temps, bon, on s'est trouvé entre un mari et une femme, et on finit par se trouver entre un père et une fille, ce qui n'est pas une situation idéale la plupart du temps pour un couple.
Et je crois qu'on peut parler de toutes ces choses simplement. Parfois, les hommes et les femmes évitent ce genre de discussion. Ils ne veulent pas parler de ce qui touche leur cœur.
Ah, écoutez, Jacques Chancel, pour moi, ça c'est d'ailleurs un des thèmes du roman, au-delà de cette limite, l'optique n'est plus valable, que je viens de publier. Le point que vous nous soulevez est un grand drame de non-communication des couples. Mais pour quelle raison ? Parce que même au plus profond de l'amour, l'homme et la femme n'ont pas de fraternité. Le drame des hommes et des femmes, en dehors des situations d'amour, en dehors des situations d'attachement profond, est une sorte d'absence de fraternité qui fait que parler sur ce qu'il y a de profond, de dangereux, de menaçant leur est totalement impossible. Vous avez des couples qui finissent une vie sans avoir parlé de ce qui les sépare et de ce qui aurait pu leur être épargné par des conversations. Là, évidemment, la psychanalyse peut jouer un rôle pour les individus, mais c'est absurde. C'est absurde parce que très souvent, ces problèmes ne sont même pas d'ordre psychanalytique profond. Ils sont simplement dus à des siècles et des siècles de préjugés qui font que l'homme doit conserver son image virile et supérieure, la femme doit conserver son image féminine, douce et soumise, et que finalement cette égalité dans l'explication franche, ouverte, libre, y compris des problèmes sexuels, leur est un tabou. Et cette absence de communication, et peut-être cette absence que j'appelle en réalité l'absence de fraternité entre les hommes et les femmes, est un des grands drames du couple.
Romain Gary, vous avez traversé la vie et le monde en prenant le meilleur des bonheurs, mais ayant eu à vos côtés Ginzburg, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que la plus grande histoire d'amour de votre vie, ce n'est pas elle, c'est une autre femme, c'est la femme de vos débuts. Alors on revient toujours à ce qui a été une première histoire d'amour.
Vous savez, très difficile de s'engager sur ce terrain, parce que là, nous entrons dans le domaine lointain. La mère, d'abord. Finalement, le grand amour de ma vie et ça a été ma mère. Mais si je remonte dans le temps, l'amour le plus passionnel, le plus fou, le plus furieux, le plus délirant, le plus suicidaire que j'ai éprouvé, c'était lorsque j'avais 10 ans pour une petite fille de 8 ans. J'étais dans un état qui est très présent à ma mémoire, dont je n'ai jamais... Je m'en suis jamais remis.
On peut aimer avec cette force à cet âge.
Avec une force totale et obsessionnelle, au point que, ne sachant m'exprimer sexuellement, naturellement à cet âge, et voulant à tout prix lui donner un manque d'amour, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai mangé une galoche en caoutchouc pour lui prouver mon amour. J'ai été transporté à l'hôpital, j'ai failli crever. Et j'ai aimé également, après, plus tard, à l'âge de 22 ans, une jeune femme hongroise
qui vit toujours.
Qui vit toujours et qui est schizophrène. Et j'ai vécu 2 ans avec cette jeune femme. C'était un amour très profond.
Vous avez eu envie de la retrouver ?
Très bouleversant.
De la rencontrer ?
Et je ne savais pas qu'elle était schizophrène. Vous voyez, je vous parle du manque de fraternité entre les hommes et les femmes. J'ai vécu 2 ans avec une jeune femme qui était déjà malade. Et j'étais trop jeune, peut-être. Je manquais de compréhension de fraternité. Je m'en étais jamais aperçu. De temps en temps... Elle avait des attitudes bizarres, elle se couchait, elle tombait malade, physiquement, disait-elle, ou elle partait se soigner en Suisse. C'est en réalité, elle sentait venir la crise et elle partait. Et pendant 2 ans, je ne me suis aperçu de rien. Et je ne l'ai appris que bien plus tard.
Vous accordez un extraordinaire intérêt aux femmes qui, à votre avis, ne sont pas toujours considérées, même en ce moment où l'on s'occupe beaucoup d'elles.
Vous savez, même sans s'engager sur le domaine du féminisme proprement dit, il y a une absence de féminité dans notre civilisation qui est effrayante. Je ne veux pas me lancer dans des propos religieux, d'autant plus que je suis un croyant. Mais si vous regardez la parole du Christ, elle était essentiellement féminine. La voix du Christ était une voix de femme. Tendresse, pitié, amour, bonté, pardon, du moins au sens, je m'empresse de le dire, traditionnel que l'on donne au mot féminité. Eh bien, ces vertus chrétiennes de la parole du Christ, ces vertus féminines, sont totalement absentes de 2000 ans de notre civilisation. Je crois qu'il est grand temps qu'en dehors même de liberté, de droits égaux qui sont évidents, il y ait une participation de la femme sur le plan de la transformation des valeurs dite masculine en valeur féminine. Et c'est pourquoi je ne comprends pas les mouvements féministes qui se réclament d'une sorte de masculinité à part égale avec les hommes. Ils devraient, au contraire, se retrancher de plus en plus et élaborer des valeurs féminines pour en féconder notre civilisation. Mais c'est sans doute une vue un peu trop idéaliste des choses.
Romain Gary, la littérature vous a-t-elle permis de témoigner comme vous le souhaitiez ? Vous auriez peut-être... J'ai pu marcher sur d'autres chemins ?
Sûrement, mais je vais vous dire, je ne m'en suis absolument pas... Là, il y a un côté monstrueux. Je ne me suis pas préoccupé...
Vous êtes monstrueux ?
Comme écrivain, il y a un côté monstrueux, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle peut-être le monstre sacré. Je ne me suis pas préoccupé, en écrivant un roman, de témoigner, d'améliorer le monde. C'est probablement mes illusions ou des excuses que je me donne. Mais il y a un besoin de créer. Je prouve le besoin d'écrire, comme probablement Picasso l'éprouvait. Il y a de temps en temps des rencontres profondes avec des grands courants idéologiques de préservation de la nature, comme dans les racines du ciel, une passion de la liberté ou tout ce que vous pouvez mettre ou trouver dans mon œuvre. Mais la fonction première est de créer, et je peux le prouver. Je peux le prouver. Je n'ai pas la moindre idée, vous m'entendez, Jacques Chancel, quand je commence un roman, de quoi je vais parler. Je n'ai pas la moindre trace de plan, de canevas, de personnage, de quoi que ce soit.
Même pas un scénario dans votre
rien,
tête.
Alors vous rien. Je parle avec du une mouvement phrase de la parole. Je parle du mouvement de la parole. Et je le plus parle
de la parole plus que de l'écriture.
Oui, la première fois, très souvent, je dicte. Et l'œuvre vient du mouvement. Et c'est seulement peu à peu, en me racontant l'histoire, que je découvre ce que je veux dire. Quelquefois, cela m'oblige à revenir au début et à recommencer le tout.
Avez-vous eu l'occasion de parler avec d'autres écrivains qui travailleraient de la même manière ?
Je viens de parler il y a quelques mois avec Graham Greene, qui ne comprenait absolument pas cette façon de travailler. Et puis il m'a dit « Ah, j'ai fait une fois la même chose et ça m'a réussi ». Je crois que par mes origines peut-être, je remonte la tradition des conteurs orientaux qui sont assis sur la place du marché et qui improvisent des histoires. Je suis incapable de faire un plan, de prévoir où je vais aller lorsque je raconte une histoire.
Vous avez souvent parlé de votre mère depuis le début de cet entretien. Elle aurait été heureuse de vous voir consul général à Los Angeles, consul général de France, vous le petit russe.
C'est ça. Sa grande obsession était de faire de moi un ambassadeur de France. Je dois vous dire, il y a peut-être une certaine fuite devant le cliché dans ma démission du Quai d'Orsay en 61. Parce qu'en effet, si j'étais resté un an de plus, deux ans de plus, j'étais...
Ambassadeur.
Je vous permets de vous le dire très bien noté, puisque j'ai été fait officier de la Légion d'honneur, au titre du ministère des Affaires étrangères. Eh bien, j'aurais été ambassadeur. Je dois dire que ça me paraissait un côté tellement banal et cliché de réaliser ainsi, avoir l'air de réaliser la prophétie ou le désir de ma mère, que peut-être dans mon subconscient, je n'en étais pas conscient, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai demandé la disponibilité au Quai d'Orsay. Je ne suis pas devenu ambassadeur de France.
Mais vous auriez pu vous lancer également, Romain Gary, dans la politique. Vous étiez armé pour ce métier-là.
Non, je ne crois pas, voyez-vous.
Parce que dans tous vos livres, il y a quand même une idée de politique. Il y a l'Europe,
absolument.
à peu près dans tous vos livres.
Oui, j'ai des passions politiques et des opinions politiques. Mais je vais vous dire pourquoi je ne pourrais pas me lancer dans la politique. Il faut se lancer dans la politique, non parce qu'on peut se lancer dans la politique, et non parce qu'on a l'occasion de se lancer dans la politique, mais parce qu'on a le désir profond, une vocation politique. Or, je ne l'ai jamais eu. Et si je m'étais fait élire député, ou si par hasard, qui sait, j'étais devenu ministre, j'aurais été un faux monnayeur. J'aurais en somme profité de ma croix de la libération, de mon prix Goncourt, de la réputation que je peux avoir comme écrivain, pour avoir encore une plus grande part du gâteau en devenant ministre ou je ne sais quoi. Et c'est une attitude qui m'est totalement étrangère, parce que si j'ai une immense fringale devant la vie, je n'ai absolument aucune en ce qui concerne l'arrivisme. C'est une notion qui m'est totalement étrangère.
Vous ne savez bien parler que de vous.
Écoutez, Jacques, vous me faites venir ici pour me parler de mon...
Non, mais je parle de votre œuvre. De votre œuvre.
Oui,
de mon... Dans votre œuvre, vous êtes tout entier.
Alors, écoutez, oui, sûrement. Mais pas...
Même lorsque vous prenez des modèles, même lorsque vous inventez des héros.
Alors, écoutez, est-ce que vous croyez, par exemple, que dans le dernier, celui qui vient de paraître...
Oui, justement, il faut parler de ce livre, car il est important. Je rappelle le titre, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.
Est-ce que vous
prenez souvent le métro, là.
Oui, c'est ça, vous savez le coup qu'ils m'ont fait? Vous savez qu'ils ont changé, ils viennent de changer les pancartes. Ils ont mis maintenant, d'une manière beaucoup plus banale et moins sinistre, limite de validité du ticket. Voilà, un effet perdu. Non, écoutez, est-ce que vous croyez que c'est moi? Je crois le contraire. Je crois que je mets beaucoup de mes forces intérieures profondes dans la création romanesque, mais je mets très peu du personnage Romain Gary tel qu'il est réellement, et qui est certainement dans une grande mesure, parce que c'est à mon avis le secret de toutes les créations, qui est certainement dans une grande mesure encore très proche de l'enfance.
Un jour, vous écrirez l'histoire de votre vie en vous jugeant?
Oui, je l'ai déjà fait. Mon intervieweur François Bondy a été très dur avec moi dans La nuit sera calme.
J'ai dit en commençant que vraiment, on vous connaît, vous êtes mis à nu là.
Oui, écoute, et puis je veux dire quelque chose. Vous savez, il y a une chose que je pense profondément. D'abord, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que de réponses indiscrètes et mauvaises. Mais je n'ai absolument aucun scrupule à me livrer complètement et entièrement. Mais encore, Jacques, pour pouvoir se livrer entièrement, il faut se connaître. Je vous assure, je ne me connais pas.
Vous avez envie de vous connaître ?
Non, j'ai commencé à réfléchir depuis deux ans, comme je vous dis, de trois ans à ce que je suis. Et puis, plus je réfléchis à moi-même, plus ça m'ennuie. Je trouve vraiment que ce n'est pas intéressant. Il vaut beaucoup mieux faire encore un ou deux romans.
Oui, mais justement, dans ce nouveau roman, vous mettez peut-être les femmes à leur vraie place, mais vous remettez les hommes à leur place, alors là.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils prennent, les hommes? Et souvent, on va vous dire, vous trahissez la caste.
Ça m'a été dit.
Vous l'avez
si bien deviné que j'ai reçu des lettres de ce genre. J'ai reçu également une insulte d'une dame qui m'a affirmé que je minais la virilité de son mari et que j'étais un salaud parce que j'ai écrit ce livre-là. Mais de quoi? Quelle est la critique que je fais là-dedans? Je ne critique pas les hommes. Je critique 2000 ans de civilisation qui fait peser sur l'homme une hypothèque de fausse virilité, de fanfaronnade, de coq, d'apparence, de manifestation extérieure d'une virilité inexistante qui est catastrophique. Jacques Régnier, dans ce roman, n'est pas en réalité dévirilisé.
C'est le héros, lui.
Le héros. C'est un homme de 60 ans qui vit une grande histoire d'amour, très tendre. J'ai mis toute la tendresse que je pouvais, tout l'amour que je pouvais pour le personnage de la femme. et qui n'a en effet plus les moyens de garçons de 20 ou 30 ans. Mais il n'est, par exemple, pas impuissant, mais pas du tout, ça ne lui suffit pas. Il veut être tel qu'il était à 20 ans. Il a investi dans son corps à 20 ans, à 30 ans, il ne veut pas s'en dessaisir. C'est le déchaînement de possession matérialiste du monde, de la vie, où on ne veut lâcher prise en rien, pour rien, jusqu'au bout, jouir à tout prix, par n'importe quel moyen, y compris à la fin, par l'artifice de l'intrusion du fantasme qui devient réalité, c'est-à-dire le troisième partenaire. Or, qu'est-ce que devient ce fantasme ? Qu'est-ce que c'est dans mon roman, ce fantasme du troisième homme qui devient troisième partenaire, qui devient réalité ? C'est un artifice, c'est une prothèse. Et ce que j'ai voulu exprimer ici, et j'y tiens beaucoup, c'est que toute notre civilisation, dite qui attache un tel prix à la virilité, est de plus en plus une civilisation de substituts, d'artifices, d'ersatz et de prothèses. Voyez donc que les hommes qui se sentent civilisés par ce livre et qui m'écrivent...
Ah, les séducteurs, qu'est-ce qu'ils prennent ?
Ah oui, mais j'ai toujours eu horreur de ça. Le Don Juan, vous comprenez, c'est le petit consommateur, c'est l'homme, c'est lui qui a inventé la société de consommation, c'est Don Juan. C'est vraiment... Et puis en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a dans la notion de changement ? Ce besoin de changer de femme continuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un cliché, c'est archi-connu au point de vue psychanalytique. C'est un signe d'impuissance. L'homme qui a continuellement besoin de changer de femme pour se renouveler, pour se ranimer, est en réalité un homme qui est sur le déclin, ou qui n'a jamais été d'ailleurs bien fort. Le véritable, je le cesserai de le dire, le véritable, le plus grand amant de tous les temps, c'est quelques paysans de Corrèze ou du Lot, je ne sais, et qui fait l'amour à sa femme deux fois par jour depuis 35 ans. Ça, chapeau, ça, c'est un véritable Don Juan. Mais l'autre, le pauvre, c'est un minable. Et il faudrait absolument en sortir, et nous n'en prenons pas le chemin. Dès que vous voyez parler de séducteur, les femmes elles-mêmes s'animent et prennent des petits sourires intrigués et ravis. Et les hommes ont des sourires bêtes et ineptes. Et ça fausse complètement tout rapport authentique de profondeur entre l'homme et la femme. Cela rend le couple absurde. Je crois profondément au couple. Je crois que le couple...
Et à la fidélité.
La fidélité, mais la fidélité non pas épidermique, quand même, la fidélité de dévouement profond de l'un à l'autre, qui peut se contenter très bien de quelques égarements en cas d'absence, vous comprenez. Je crois que la vérité des rapports de l'homme et de la femme, c'est le couple, et tout le reste, c'est de la crème chantilly. Bon, c'est très bon, la crème chantilly, je ne crache pas dessus, excusez-moi l'expression, mais enfin, quand même, la vérité et la profondeur, c'est cette espèce d'équipe à deux, cette espèce de soudure profonde, cette espèce de complicité, cette entente instinctive de tous les instants, ce partage de tous les buts dans la vie et de tout ce qu'on veut faire, de tous les rêves aussi, qui est absolument irremplaçable et qui a été une des grandes beautés, un des grands fleurons de la civilisation occidentale, parce que c'est nous quand même qui l'avons inventé.
Et tout cela, vous, Romain Gary, vous l'avez eu ?
Je l'ai eu. Ça n'a pas duré, mais je l'ai eu. Et je ne m'en plains pas, à cet égard, j'ai été un homme comblé. Je n'ai pas été un homme comblé par les femmes. J'ai été un homme comblé par une femme ou deux femmes.
Vous parlez de Don Juan, mais à une certaine époque, on a pu vous prendre, vous aussi, pour un Don Juan. On parlait tout à l'heure de votre physique.
Oui, je sais. Que voulez-vous que j'y fasse ? C'est une casserole que je traîne attachée à
Et que vous traînez encore.
Toujours, et que je traîne encore. J'ai 61 ans. Et c'est un malentendu total, simplement parce que notre civilisation et notre société aiment des clichés superficiels, aiment des catégories, et que j'avais une petite moustache, et l'œil bleu, et qu'un profil, je ne sais de quel ordre, et qui correspond absolument en rien à aucune réalité profonde, mais j'ai traîné cette notion, en effet, derrière moi toute ma vie. Pourquoi ? Je ne saurais vraiment pas vous dire.
Alors jusqu'à présent, on célébrait la virilité, mais il y a une fin à tout.
Oui.
Alors la puissance, quelle forme aura-t-elle maintenant ?
Vous voulez dire, est-ce que vous parlez du point de vue général ?
Est-ce point de vue général, préciser... oui, c'est la puissance du
Écoutez,
monde.
C'est une chose, voilà, c'est également un des thèmes de mon roman. Je crois qu'il y a là cet investissement monstrueux que l'on fait dans la puissance et dans la virilité, est un danger terrible parce qu'il est toujours, il se tire toujours d'affaires par des transferts. L'impuissance sexuelle, le déclin sexuel tend à se rattraper par l'argent, par la puissance politique, je le montre clairement dans mon roman, et au-delà de cela, jusqu'au nucléaire, par des compensations militaires et guerrières qui sont une menace pour la civilisation. Au fond de cette virilité-là, il y a le néant, le désespoir et la mort.
Mais vous fixez tout de même le cadre dans votre roman. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, car le héros, c'est un PDG.
Oui, c'est une petite et moyenne entreprise, et je crois qu'en effet, ce roman, dans un milieu ouvrier, serait inconcevable. Il est absolument lié à une société, à une heure historique. C'est l'homme du XXe siècle, où tout est acquisitif, où la société euphorique de la prospérité a changé le rapport entre les hommes, un rapport entre objets acquis, et où tout, absolument toute notre activité va vers plus et encore plus, y compris dans la notion du jouir.
Donc pour vous, le PDG, c'est un animal puissant.
Bon, entendons-nous. Vous savez que je ne crains pas de prendre mes responsabilités. Ne prenez donc pas ça pour que je n'ouvre pas un parapluie. Il va sans dire que je n'ai pas peint dans... Au-delà de cette limite, je n'ai pas peint tous les PDG. J'ai donné le portrait d'un PDG, Jacques Régnier, aux prises avec une conception de la virilité et de la puissance qui est typique d'une certaine société et d'une certaine classe sociale, mais qui ne veut pas générale. Il y a d'autres types de PDG, bien entendu, parce que si je généralise trop, je passe à la calomnie. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, dans ce cas-là, j'incarne dans un type, dans un prototype, et il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaîtront peut-être et qui m'écriront encore d'autres lettres d'insultes. Parce que lorsqu'on écrit une lettre anonyme d'insultes, comme je vous l'ai dit dans ce genre, on signe en effet l'identification avec le personnage et avec ce que j'en dis. Ceci dit, ce Jacques Régnier m'est profondément sympathique. Ce n'est pas un salaud, ce n'est même pas un détraqué, c'est un homme victime des circonstances où la crise de la civilisation occidentale, la crise de l'énergie, la crise des affaires, parce que finalement, même symboliquement, cette dévirilisation de l'homme est assez bien, symbolise assez bien la crise de l'énergie que dont nous souffrons, cet homme qui se débarre dans des pièges qui sont, si vous voulez employer un cliché, ceux de la société de consommation et qui transforme la sexualité en elle-même en une sexualité d'objets toujours accumulés, en une sexualité acquisitive et possessive.
Romain Gary, il pourrait y avoir quelque chose d'ennuyeux dans le choix que vous faites des personnages. Ce héros, ce PDG, il y a 60 ans, vous l'appelez Jacques Régnier. Mais il est possible que dans la vie, et même en ce moment, quelqu'un nous écoute qui s'appelle, lui, Jacques Régnier.
Oui.
Et sur lui va tomber tout ce que vous dites.
Non, parce que je me suis posé cette question et j'ai même consulté des avocats. Alors, premièrement, le personnage de Jacques Régnier, le nom de Jacques Régnier est pris dans un roman que j'ai écrit en 1949. C'est le personnage central de mon roman, Les couleurs du jour. Donc, j'ai déjà évoqué ce personnage à cette époque-là. D'autre part, inutile de vous dire qu'il n'y a aucune possibilité d'identification de ce personnage mythique, parce qu'il faut quand même des circonstances autres qu'un simple nom. Il faut une raison sociale, il faut une vie analogue, une biographie analogue. S'il existe un Jacques Régnier qui se sent visé par mon livre, ce serait vraiment le comble de...
Revenons aux hommes, Romain Gary. Les hommes sont-ils d'indécrottables romantiques?
Est-ce que vous voulez me poser la question plus directement? Parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez me dire, Romain Gary, est-ce que vous êtes un indécrottable romantique?
Voilà, c'est ça. Si vous voulez.
Alors ma réponse par rapport à la merde, oui. Et je m'entends par là. Je vais vous expliquer ce que je vais vous dire. L'homme et la civilisation ne sont pas des notions qui nous sont venues comme ça de l'océan. Nous les avons fabriquées nous-mêmes. Et si nous dépouillons l'homme de toute invention, de toute mythologie, nous arrivons à la barbaque. La barbaque, pure et simple, la sexualité de la barbaque, une vie purement animale. Bon, très bien, mais alors là, Auschwitz aussi est acceptable. Dans la mesure où vous faites une haute idée de l'homme, c'est seulement dans cette mesure que vous rendez vraiment Auschwitz et les exterminations odieuses. C'est pourquoi, je vous dis, par rapport à la merde, oui, par rapport au degré, au niveau zéro de l'homme, oui, je suis un indécrottable romantique.
Bon, il y a cette question dont nous parlions tout à l'heure, c'est cette vue de la chose. Un homme qui se sent diminué, peut-il encore accepter d'être aimé?
C'est une question, moi personnellement,
d'âge.
Oui, je comprends très bien. Diminué sexuellement?
diminuée par les années qui passent.
Cela veut dire,
et nous sommes tous condamnés à ça.
Oui, que cela dépend profondément des rapports que l'on a su établir avec la femme aimée ou avec la femme qui vous aime. Si il y a une profondeur, une authenticité des sentiments, un dévouement, cette unité dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette fraternité, eh bien rien ne peut arriver à un couple où l'un ou l'autre partenaire est diminué. Au contraire, la tendresse s'exalte, la tendresse devient plus forte, il se mêle des notions de protection, de pitié, véritablement au sens le plus beau de ce que l'humanisme peut contribuer à l'existence d'un couple. Je connais, par exemple, je pense, quand je dis ça, à un exemple que j'ai connu en Amérique du grand danseur et chorégraphe Balanchine, dont la femme, Tanaki Leclerc, qui était de sa grande vedette, est devenue entièrement paralysée à la suite de la polio. Eh bien, il a vécu pendant des années un amour parfait avec sa femme. Je crois que ce sont des questions de rapport, de profondeur de rapport dans le couple. Si le couple a des rapports véritablement profonds et authentiques, il survit à tout. Sinon, vous savez, qui est diminution, déclin sexuel, qui est une habilité quelconque ou maladie quelconque, tous les prétextes sont bons. Et tout petit coup au bâtiment fait crouler la structure entière. Je pense que, de toute façon, la seule chose déterminante et essentielle dans l'existence d'un couple, c'est une communauté tellement profonde que pour l'essentiel, il ne peut rien leur arriver. Et cela vraiment exclut et se situe au-delà de la question de sexualité ou ailleurs. Vous pouvez dire que c'est une vue romantique, et moi je vous répondrai que c'est une autre vue. C'est une vue presque religieuse de la sexualité, et de l'amour. Je crois que, en effet, j'ai envers l'amour, envers la femme, et envers l'acte sexuel, une vue assez primitive, celle qui ont connu les religions très anciennes, mystiques, religieuses, et qui assure la transcendance de la sexualité vers l'amour. Et ce n'est pas du romantisme.
Romain Gary, toute votre vie, vous avez été poursuivi par les féminités. Il faudra bien qu'un jour, vous remplaciez...
Ah non, absolument pas, je refuse, non, pas question.
Par la tendresse.
Ah ben oui, mais ça fait partie pour
par moi. L'humour.
Par l'humour, oui, je sais bien. Je ne pourrai jamais me passer...
C'est beau d'embrasser tendrement sur les joues.
Je ne me séparerai jamais de cette beauté de vivre que m'apporte la féminité. Cela ne veut pas dire nécessairement la performance de l'acte sexuel, pas du tout.
Pourquoi écrivez-vous parfois sous d'autres noms ? Pour vous cacher ?
Oui. Pour me libérer, parce qu'on m'a fabriqué, j'ai écrit deux livres sur
les pseudonymes. Par exemple, Les Têtes de Stéphanie.
Et
c'est toutes ces têtes qui tombent au pied des hommes.
Et puis un autre roman qui s'appelait L'homme à la colombe. J'ai écrit ça parce qu'on m'a fabriqué, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure vous-même, on m'a fabriqué une tête, un personnage de Romain Gary, la critique, les gens, etc., dont on me tient prisonnier. Lorsqu'on lit un livre de moi, je retrouve toujours les mêmes histoires et très souvent le même jugement qui porte très souvent sur l'œuvre, bien sûr, parce que la critique, notamment pour mon dernier livre, a été très objective, mais aussi sur l'homme qui est derrière. Et cet homme qui est derrière, je ne le reconnais pas. Il m'est totalement étranger. Alors, de temps en temps, pour échapper à cette façade qui n'est pas la mienne, qui m'a été donnée par les autres, j'écris sous un pseudonyme, mais c'est impossible. Il est totalement impossible d'imposer un pseudonyme à Paris, il est toujours percé.
Enfin, les autres peuvent-ils raconter ce que nous sommes ? D'une manière générale, les autres en savent plus.
Vous savez, oui. Je crois que quelquefois, vous entendez un ami ou simplement une personne très intelligente, très perspicace, dire des choses qui vous font frémir de vérité découverte sur vous-même. Ça arrive très souvent. Et je crois que les autres peuvent apporter des révélations très sérieuses, mais à condition qu'ils vous connaissent, pas lorsqu'ils ne vous connaissent pas du tout, qu'ils ne vous ont jamais vu.
Vous avez l'impression de vous être éloigné de votre enfance ?
Non. Non, je crois que le jour...
D'être sorti de la promesse de l'aube.
Non, je crois que le jour où je m'éloignerai complètement de mon enfant, je ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois que la fonction, je crois profondément d'ailleurs avec Grodeck, avec Adler, et aussi avec Freud, que la fonction créatrice est très profondément liée à l'enfance. Tuer l'enfant dans l'adulte, c'est vraiment tuer tout rapport avec la créativité.
En ce moment, vous pensez que nous sommes sur la pente de la décadence ? J'ai cru le comprendre dans ce que vous disiez.
Je crois que vous avez...
C'était sous-titré.
Vous n'avez pas cru le comprendre, je crois que vous l'avez compris. Je crois que lorsque j'ai dit dans mon roman, au-delà de cette limite forte, Attiquée n'est plus valable, je le dis aussi pour toute notre civilisation. Ça ne veut pas dire chute, ça ne veut pas dire nécessairement fin. Ça peut même dire une victoire, pourquoi pas? Mais une victoire au nom de quoi? La victoire n'est pas en soi le contraire d'une décadence. Elle peut préserver les valeurs fausses d'une décadence. Hitler, après tout, aurait pu gagner la guerre. De même, décadence est une notion très, très, très subjective. Par exemple, pour moi, la Chine, que l'on donne aujourd'hui comme le contraire d'une décadence, me paraît, sur le plan de la survie culturelle, de la personnalité humaine, de l'humanisme et de la domination par un seul homme, est d'une certaine façon décadente. C'est une notion extrêmement subjective. Et donc, je ne peux pas vous dire que nous allons finir. Je sais simplement que si il n'y a pas une mutation profonde de la société, la vie continuera peut-être, mais elle ne vaudra plus la peine d'être vécue. Et ça, c'est la pire des décadences.
Je reprends le titre de votre roman, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, et je peux l'interpréter de différentes façons. Au-delà, par exemple, de 60 ans, un homme ne doit pas se pencher du côté d'une jeune fille de 22 ans. Au-delà de 60 ans, un homme doit s'interroger sur son avenir politique. Au-delà de tel cap, il faut faire attention. Toutes les interprétations sont permises.
Et au-delà d'un certain point, votre société n'est plus valable, il faut en changer, votre civilisation va crouler, il faut penser à autre chose. En effet, j'ai délibérément choisi cette ambivalence et cette ambiguïté.
Il y a chez vous également une belle sérénité devant la mort. Pour vous, la mort, c'est une récompense.
Ah oui, c'est tout à fait. Je m'anime dès que vous parlez de la mort. Je me sens chez moi. J'ai de très bons rapports avec la vie et d'excellents rapports avec la mort. La mort est une des choses les plus calomniées dans le grand dictionnaire, l'encyclopédie de l'humanité. Et ce qui est affreux, ce qui est horrible, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Car la mort, aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous infligent, même les médecins dans les hôpitaux, les tortures, le prolongement inutile. Je ne vous parle pas...
Mais si les médecins tuaient, on les arrêterait.
Bon, très bien. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, le médecin devrait le dire aux malades, et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. Je crois qu'il y a un honneur...
Nous ne sommes pas encore là.
Non, c'est une question que chacun doit... Simplement, c'est une question que chacun doit résoudre selon sa conscience. Et je comprends parfaitement que le médecin, il répugne, comme certains répugnent à l'avortement. Ça, c'est une autre question. Mais là, une question individuelle. C'est qu'un homme qui n'est plus que de la barbaque, un homme qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket au-delà de toute limite, c'est un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant. Et c'est là que l'on transforme l'homme en un chien.
Vous pensez que des hommes auraient envie de vivre éternellement?
Probablement parce qu'ils ne se rendent pas compte des ennuis, des ennuis effroyables qu'il y a. D'abord, je crois que si les hommes vivaient éternellement, ils deviendraient fous. Vous comprenez, mais c'est de l'ordre du paradoxe, parce qu'il est possible que si les hommes devaient vivre éternellement, leurs organes et leur psychisme seraient tellement différents qu'ils supporteraient très bien l'éternité. Ce que j'ai dit simplement, c'est que l'homme physiologique et psychique tel que nous le connaissons ne supporterait absolument pas l'éternité.
Romain Gary, vous pensez qu'un jour on pourra inventer un homme nouveau, mais pas seulement avec une plume, de l'encre et un papier?
Ah oui. Ça vous fait allusion à une phrase dans Les Enchanteurs, un de mes romans. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on inventera un homme nouveau. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu une tentative pour inventer un homme nouveau, cela a surtout voulu dire une extermination de quelques millions d'hommes. Je pense que nous sommes très prisonniers de notre formule que le destin nous a donnée, formule chimique et physiologique, et je crois que nous irons tranquillement, peu à peu, vers une autre extinction, comme le système solaire et autre chose. Je ne pense pas que ce soit la fin, parce que je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire ça, comme disait le psychiatre Grodeck, mais je sais certainement que l'aventure humaine, comme toutes les aventures de la nature, prendra fin un jour. Et je crois que le véritable optimisme consiste à se dire quand même, bon, les prochaines 20 000 années seront très difficiles.
Ayant passé, comme vous l'avez fait, le cap des 60 ans, vous avez... Le sentiment, Romain Gary, d'avoir retrouvé toutes vos illusions?
Je ne les ai jamais perdues. Vous savez, c'est une des plus belles choses de la vie, c'est de pouvoir se débarrasser de ces illusions. arriver à ne plus croire, à ne plus espérer, à ne plus aimer, la sagesse, Zen, Bouddha, le renoncement, la grotte de l'ascète. Ah, comment faire, Jacques Chancel? Si vous connaissez ce secret, dites-le moi. Moi, je ne le connais pas.
Merci, Romain Gary.